matière bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
On sait qu'elle avait été, dès son vivant, le rayonnement de l'évêque d'Hippone, de son œuvre et de sa pensée. Il arrivait même, avec la connivence de Claire de son entourage, que le public obtint communication de certains de ses textes avant même qu'il ait jugé opportun de les éditer.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le principe de cette émission qui va être consacrée à Saint-Augustin s'est défini à la rencontre de deux événements bien différents par leur nature et par leur portée. Il s'agit d'abord de la crise qui secoue l'Église catholique du fait de la révélation brutale d'actes de pédophilie accomplis par un certain nombre de ses clercs et de la protection que l'institution ecclésiale a pu assurer aux coupables de ces crimes. D'autre part, en simultanéité chronologique, vient d'être publié avec un grand retentissement un ouvrage posthume de Michel Foucault intitulé « Les aveux de la chair ». Publié au printemps dernier, ce livre d'un intellectuel majeur du siècle dernier s'attache à éclairer à partir d'une relecture des pères de l'Église la relation entre le christianisme et la sexualité. Foucault montre, après le grand historien britannique Peter Brown, que cette relation, chez ses auteurs, n'est pas seulement une histoire de répression et d'occultation, mais qu'elle reflète une longue interrogation sur la maîtrise des pulsions du sexe et pour chacun des humains, sur une quête de soi, sur sa liberté et sur sa responsabilité. Or, il se trouve que dans le cours de cette réflexion, l'œuvre de saint Augustin s'affirme comme essentielle. Augustin, maître de la pensée chrétienne au tournant des 4e et 5e siècles, l'auteur de ses Confessions, qui constitue, en brutale franchise, la première autobiographie latine, un père de l'Église dont l'influence fut immense au long des temps ultérieurs. Nous allons parler de lui en replaçant son message sur la sexualité et sur la maîtrise du désir physique dans le champ plus large d'une pensée dont la profusion ne laisse pas d'être impressionnante. Claire Sotinel, mon invitée, est professeure d'histoire romaine à l'université de Paris-Est-Créteil et ses travaux illustrent sa compétence sur l'œuvre, le rayonnement et les puissantes ambivalences de saint Augustin. Et d'abord il faut l'écouter.
J'étais dévoré de violence, d'une horrible honte. Je me retirais en moi-même. Que ne me dis-je pas contre moi? De quel coup ma pensée ne flagella-t-elle pas mon âme, afin de l'obliger à me suivre dans mes efforts pour vous joindre? Alors, au milieu de ce puissant débat intérieur que je menais contre mon âme, dans cette chambre secrète qu'est notre cœur, je me jette, avec un visage aussi troublé que mon esprit, sur Alypius, en m'écriant « Qu'attendons-nous? Qu'est-ce donc? As-tu entendu? Des ignorants se lèvent et prennent le ciel de force, et nous, avec notre science sans cœur, voici que nous nous roulons dans la chair le sang. » Je délirais pour retrouver la raison, et je mourrais pour revivre. En proie à la plus tumultueuse indignation, je frémissais de ma résistance à votre volonté, à votre alliance, ô mon Dieu. D'où vient ce prodige? L'âme donne des ordres au corps, et elle est obéie sur le champ. L'âme se donne à elle-même des ordres, et elle se heurte à des résistances. Ce qui me retenait, c'était des bagatelles de bagatelles, des vanités de vanités, mes anciennes amies. Elles me tiraient par mon vêtement de chair en murmurant « Tu nous renvoies? Dès ce moment, nous ne serons plus jamais avec toi. Et dès ce moment, tu ne pourras plus faire ceci et cela. Plus jamais. » et ce qu'elle me suggérait dans ce que je viens d'appeler ceci et cela. Ce qu'elle me suggérait, mon Dieu, que votre miséricorde en écarte la pensée de l'âme de votre serviteur. Quelle saleté, quelle honte, ces suggestions. Et encore, je n'entendais pas même à moitié leurs propos, car elles ne se présentaient pas en face comme de loyales adversaires, mais c'était par derrière, et à voix basse qu'elles me parlaient. Et si je tentais de m'éloigner, elles me pinçaient furtivement pour me forcer à me retourner. Elles me retardaient toutefois, car j'hésitais à m'arracher d'elles, à m'en défaire pour répondre à l'appel qui m'attirait. Et la tyrannique habitude me disait « Crois-tu que tu vas pouvoir vivre sans elle ?» Mais déjà sa voix était sans chaleur, car du côté où je tournais mon visage et où je tremblais de passer, se découvrait à moi la dignité chaste de la continence.
Claire Sotinel, bonjour.
Bonjour, Jean-Noël Jeannet.
Cet extrait des Confessions de Saint-Augustin a été lu, je ne sais pas par qui, sur France Culture le 27 juillet 1973. La tyrannique habitude des bagatelles de bagatelles, nous sommes là transportés au cœur de la thématique qui va être la nôtre ce matin.
Au cœur de la thématique et au cœur d'une partie de la pensée d'Augustin, de sa pensée, de ce qu'il est aussi. Augustin vit dans une inquiétude permanente et pense dans une inquiétude permanente. C'est un esprit qui nous séduit encore aujourd'hui à cause de cette inquiétude. Et cette inquiétude, elle va creuser au plus profond de lui-même.
Elle l'empêche d'être péremptoire. Le plus souvent.
Il l'empêche très souvent d'être péremptoire. Même dans ses sermons au peuple, ou plus tard comme évêque, il s'adresse aux gens, il est rarement péremptoire, et même s'il peut être autoritaire, cette inquiétude nous le rend très sympathique, et cette inquiétude, elle repose sur la conscience d'une fêlure à l'intérieur de lui-même et de cette tension entre l'âme qui commande et la chair qui obéit ou qui n'obéit pas.
L'âme, c'est parfois aussi la raison dans sa...
Pour Augustin, elle est intéressante cette traduction, parce que la traduction utilisée dans cette lecture, parce qu'elle glisse la pensée d'Augustin dans un vocabulaire qui est celui de la piété catholique du 19e siècle. Et de ce point de vue-là, elle affaiblit un petit peu le texte. Mais effectivement, pour Augustin, l'âme, c'est tout ce qui ressort, c'est l'esprit en même temps, donc aussi la raison. C'est plus que la raison, mais c'est aussi la raison. La chair, c'est bien sûr la sexualité, et on sent bien dans ce texte à quel point elle est importante, mais c'est aussi tout ce qui ressort de toutes les formes de désir, y compris l'ambition sociale, y compris le désir du bien-être, du confort, de la richesse matérielle.
La continence, ce n'est pas seulement la continence sexuelle.
Et la continence, vous avez tout à fait raison, c'est une sobriété de tous ces aspects du désir charnel. Et Augustin, dans toute son existence, est blessé par l'impossible union harmonieuse entre la chair au sens très large du terme et l'âme au sens là aussi très large du terme.
Alors toute son existence, Claire Sotinel, il faut que vous nous aidiez à mieux la connaître. Naturellement, c'est inutile pour la plupart de mes auditrices et de mes auditeurs, mais faites comme si.
Faisons comme si Augustin, c'est un petit bourgeois africain qui naît à peu près au milieu du 4e siècle.
354.
Dans une toute petite ville d'Afrique, Tagaste, qui est en Algérie aujourd'hui. Et son père appartient à l'élite municipale. C'est un des décurions, c'est-à-dire les 10% les plus riches de la ville, propriétaires terriens, qui sont susceptibles d'exercer des responsabilités municipales sur place. Son père est typiquement un Africain de l'époque, qui a des maîtresses, qui est ambitieux pour ses enfants.
Qui est païen. Paganus.
On dit encore gentil à l'époque. Hein, gentiles, hein, le terme de païen commence à être utilisé un peu plus tard. Mais être païen, c'est pas être minoritaire. Être païen, c'est être traditionnel, hein, et faire comme ses parents ont fait. Et vraisemblablement, dans le cas de Patricius, son père, c'est ne pas s'intéresser beaucoup aux questions religieuses. Alors que sa mère, elle, Monique, est chrétienne et est passionnée de questions religieuses, très désireuse que ses enfants soient eux-mêmes chrétiens et très affligée par le conservatisme de son mari et le désintérêt de son mari des choses religieuses.
Donc ce couple est un peu métaphorique, il représente le contact de deux traditions.
De deux traditions, de deux mondes aussi, parce que Monique est sans doute en partie punique encore. Hein. En tout cas, Saint-Augustin, quand il est enfant, a une nourrice punique. Punique, c'est-à-dire berbère, c'est-à-dire les traditions africaines non romaines, hein, alors que son père est parfaitement romanisé. Et Augustin a un frère, Navigius, une sœur, dont on ne connaît pas le nom. Souvent, dans la vie d'Augustin, on ne connaît pas le nom des femmes qui passent.
Et cela dit quelque chose ?
Cela dit certainement quelque chose d'une société, une société très genrée, comme on dirait aujourd'hui, dans laquelle seuls les hommes comptent dans l'espace public, et peut-être aussi d'Augustin en particulier, qui aura plus tard des amis femmes bien, enfin, dont on connaît les noms, mais ce sont des amis qui l'élèvent socialement, contrairement aux femmes dont on ne connaît pas le nom.
Sa mère rêve qu'il fasse un beau mariage.
Alors sa mère rêve pour tous ses enfants qu'ils deviennent chrétiens, de bons chrétiens, mais qu'en même temps ils fassent de bons mariages. Et les deux parents poussent leurs enfants à des études qui mènent Augustin rapidement à quitter ce petit bourg de Tagaste pour aller d'abord à Madaure, mais surtout à Carthage. À partir de 371, à 17 ans, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et Augustin ne l'est pas, il découvre tout, plein de choses. Il découvre la philosophie en lisant l'Hortensius de Cicéron.
Augustin et Rimbaud, je ne m'attendais pas à cette rencontre.
Ah ben écoutez, pourquoi pas. Bon, il a vécu plus longtemps, il ne sait pas. Il découvre donc la philosophie, il découvre le théâtre qu'il aime passionnément, d'une passion qui lui fait peur, hein, parce qu'il est tellement d'une passion tellement intense qu'elle l'impressionne lui-même.
C'est aussi du théâtre qui devra devenir continent.
C'est aussi, bien sûr, c'est beaucoup du théâtre, du théâtre, des paris, des jeux, et aussi des femmes, parce qu'il découvre les femmes. Et c'est à ce moment-là, non seulement c'est dans ses années très jeunes à Carthage, hein, qu'il a une concubine, et qu'il a un fils, Adéodatus, un nom tout à fait chrétien, donné par Dieu. Et Augustin est dans cette logique romaine tout à fait classique, c'est-à-dire qu'il a une concubine dont on ne connaît pas le nom, qu'il n'épousera jamais, mais avec laquelle il vit de manière régulière, et il vit avec son fils également, qu'il considère comme son fils et qu'il l'accompagnera jusqu'à sa mort précoce à 17 ans, lui aussi. Donc il a cet attachement charnel, hein, et affectif très fort. Et c'est là aussi une des choses qui rend Augustin sympathique pour nous aujourd'hui, c'est que Augustin, c'est un homme de chair et c'est un homme qui assume d'être un homme de chair, même s'il lutte contre ses désirs. Alors, pour ne pas passer l'heure à raconter la vie d'Augustin, lors de ses études, Augustin fait des va-et-vient entre Carthage et Tagaste. C'est un excellent étudiant. Il se fait connaître du proconsul de la ville par un concours de poésie. Et il devient professeur de rhétorique à Carthage, fonction dont il a horreur, parce qu'il supporte assez mal ses étudiants qu'il trouve vulgaires, bruyants et pas très doués. Des choses qui arrivent à tous les professeurs de tous les temps.
Si vous le dites, madame la professeure.
Et il devient manichéen aussi. Il adopte cette forme religieuse très originaire lointainement de Perse, mais qui est devenue, qui s'est branchée sur le christianisme et qui est une approche philosophique du christianisme, dont un des nœuds est de distinguer ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais.
Quasiment à égalité. Dans...
Ben, à égalité, surtout de façon très séparée. C'est-à-dire que les initiés manichéens peuvent atteindre le bien parfait, et ce bien parfait suppose un renoncement de la chair complet, Et les autres sont abandonnés à leur triste sort charnel. Et les manichéens se recrutent beaucoup dans l'aristocratie locale. Et c'est grâce à ces relations manichéennes qu'Augustin peut partir à Rome. Rome qui reste, bien que n'étant plus résidence impériale, qui reste un pôle urbain et un pôle culturel extraordinaire.
C'est Milan désormais qui est la capitale.
C'est à Milan que résident les empereurs, effectivement. Et arrivé à Rome, il obtient une chaire de rhétorique, là, donc une chaire publique de rhétorique. Il enseigne de nouveau, il déteste ça de nouveau. Et grâce à l'amitié d'un sénateur qui est tout à fait païen, qui est le sénateur Symmaque, il échappe à l'enseignement pour rentrer non pas au CNRS, mais pour obtenir une chaire de rhétorique à Milan, une chaire de rhétorique impériale. C'est-à-dire que sa fonction sera moins d'enseigner que de faire des discours pour le prince. Et donc il part auprès de l'empereur. Sa mère, qu'il avait fui en quittant Carthage, la rejoint à Rome et l'accompagne à Milan.
Il devient plume, comme on dirait aujourd'hui.
Il devient plume, il devient effectivement... plume pour l'empereur, mais il devient chargé de composer des discours en l'honneur de l'empereur. On n'en a conservé aucun. Et voilà, tous les rêves de Monique sont prêts de se réaliser, sauf que à Milan... Augustin rencontre aussi Ambroise, l'évêque, et ce qui lui fait comprendre autrement le christianisme, mais pas comme sa mère l'avait souhaité, non pas pour devenir un bon chrétien, membre de l'aristocratie impériale, mais pour se convertir à une philosophie chrétienne, quitter sa chaire de rhétorique, quitter ses fonctions officielles, pour aller travailler une approche chrétienne de la philosophie, ce qu'il fait avec certains de ses amis africains qui l'ont accompagné à Milan, dont son cher Alypius, qui l'accompagnera presque jusqu'à la fin de sa vie.
Il a 32 ans quand il se convertit, 386.
Il a 32 ans, oui, absolument. C'est pas du tout un adolescent qui se convertit, c'est un long chemin de vie. Acacianum, il est aussi accompagné de son fils Adéoda, de plusieurs amis africains, de sa mère. Et là, il décide de franchir un pas qui est de se faire baptiser. C'est-à-dire non seulement de considérer le christianisme comme une réflexion philosophique dont il apprécie dorénavant les hautes exigences morales, mais d'accepter de rentrer dans ce qui est devenu une grosse institution, une institution lourde à laquelle participent des gens de toutes sortes. Et il se fait baptiser par Ambroise le 25 avril 387. Il décide de rentrer en Afrique. Sur le chemin du retour, il perd sa mère qui meurt à Ostie en 387, à la fin de 387. Et de retour en Afrique, il veut vivre une vie de moine, mais de moine pas comme les ascètes d'Orient qui partent au désert. Ce qu'il faisait à Cassicianum, c'est-à-dire des amis, de la prière, de la réflexion, des discussions.
Et de l'écriture.
Beaucoup
d'écriture.
Déjà beaucoup d'écriture. Il a déjà écrit les dialogues de Cassicianum. Il continue d'écrire, mais l'église locale lui met la main dessus. L'église locale, c'est un évêque, Valerius, qui est bien embêté, parce que c'est un évêque grec qui parle peut-être bien le latin, mais pas du tout le punique, et qui est un peu perdu au milieu de ses ouailles à Hippone.
Alors qu'Augustin, lui, parle très mal, semble-t-il, le grec, mais évidemment très bien le punique et le latin.
Il parle pas très bien le punique, mais il le comprend, et il parle remarquablement bien le latin, et c'est un rhéteur tout à fait admirable.
Donc il est en quelque sorte recruté par l'Église pour devenir un évêque.
Il est recruté par l'Église pour devenir un prêtre, puis un évêque, et à la mort de Valerius à Hippone, il devient évêque en 395. Le reste de sa vie, d'un point de vue biographique, il est évêque d'Hippone jusqu'à sa mort en 430. C'est sa fonction et son identité. On pourrait évoquer des tas d'affaires ecclésiastiques dont il s'occupe, mais fondamentalement, il exerce ses fonctions d'évêque d'Hippone avec tout ce qu'elle comporte de responsabilité sociale, judiciaire.
Et administrative même à l'époque.
Administrative beaucoup. Et pastorale, tout en continuant d'écrire énormément et de construire une œuvre qui dépasse très largement les limites, les frontières d'Hippone.
Dès son vivant, il est extraordinairement connu.
Il est extraordinairement connu. Alors, quand il commence à écrire et à publier ses œuvres, il arrive comme un petit jeune auprès d'auteurs beaucoup plus senior que lui, Ambroise, bien sûr, qui est de loin son aîné, mais aussi Jérôme, qui s'est installé à Bethléem, et qui voit d'un œil un petit peu suspicieux ce très jeune homme, plein d'enthousiasme, on a entendu le texte d'Augustin, qui pense de façon très approfondie les questions de l'Église. Donc, ses œuvres circulent énormément, mais elles sont aussi, dès le début de sa carrière, accueillies avec des réactions souvent très nuancées. Il n'est pas le père de l'Église dont la parole, d'un seul coup, d'un seul, inonderait le christianisme du monde romain. Il est un penseur parmi d'autres, avec un réseau de correspondants et un réseau de lecteurs qui croient très rapidement et qui lui donnent un écho tout à fait extraordinaire.
Et cette question de la sexualité qui était présente dans le premier extrait que je vous ai fait entendre n'occupe pas son esprit, son œuvre est beaucoup plus vaste, mais néanmoins, c'est sous cet angle-là que nous allons surtout le considérer. Et puisque je parlais de Michel Foucault et de son livre important, Les aveux de la chair, il faut lui donner la parole. À vrai dire, c'est une archive qui remonte longtemps avant l'écriture de ce livre important, puisque c'est un extrait des Après-midi de France Culture, le 11 janvier 1977. L'Église catholique, le christianisme et la chair.
Je connais mal l'histoire des religions, mais il y a tout de même peu, je crois, de religions. Il y en a quelques-unes. Le christianisme n'est pas le seul, qui impose comme une des obligations absolument fondamentales de l'existence de raconter ses fautes. Et surtout, alors ça, le christianisme est seul à imposer cette confession d'une manière aussi régulière, aussi fréquente, la confession hebdomadaire. Dans les milieux catholiques, enfin moi quand j'ai été élevé dans des collèges religieux, c'était au moment de la Seconde Guerre, là, la confession une fois par semaine était monnaie courante, avec examen de conscience, et bien sûr, référence majeure au péché contre la chair comme le péché par excellence, c'est tout de même une espèce de dressage à ne prendre conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité, tout de même un dressage absolument formidable. Et je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée.
Alors Claire Sautinel, on a là, me semble-t-il, et le premier Foucault et le second.
Voilà, on a le Foucault d'avant les aveux de la chair, hein, un Foucault qui pense le christianisme comme il l'a connu au catéchisme, comme quand il était petit, et qui va découvrir dans les lectures qu'il fera après des pères de l'Église, dont Augustin, que le christianisme n'est pas monolithique à ce point. Par exemple, la confession, ça n'existe absolument pas à l'époque d'Augustin. Augustin appelle son œuvre qu'il écrit alors qu'il est déjà évêque. Donc alors qu'il est déjà évêque, il écrit ce livre très très original dont on a entendu un extrait, d'introspection individuelle, l'appelant confession au sens de raconter sa vie.
C'est déjà Jean-Jacques Rousseau.
Presque, en quelque sorte. Jean-Jacques Rousseau.
C'est plutôt le contraire, Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau qui a lu les confessions. Et en revanche, dans la discipline de l'Église, il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on appellera plus tard la confession auriculaire, c'est-à-dire le fait de raconter à un prêtre régulièrement, de faire un examen de conscience pour surveiller ce que l'on est. Dans le christianisme d'Augustin, il peut y avoir une réconciliation si on a péché, mais c'est des péchés graves et c'est une pénitence publique et ça n'a rien à voir avec l'introspection. Si on a tué quelqu'un, on peut demander à être réconcilié avec l'Église après avoir été excommunié.
Alors, le livre de Foucault, on en voit déjà une petite esquisse, il a conscience de soi, mais enfin, c'est tout à fait un autre Foucault, une pensée beaucoup plus développée que l'on trouve dans ce livre posthume qui vient d'être publié.
Les aveux de la chair, dans lesquels, justement, Foucault, grâce au conseil de Pierre Hadot, qui est un spécialiste des pères de l'Église, grâce à sa rencontre avec Peter Brown, que vous avez cité, qui était en train d'écrire sa merveilleuse biographie de Saint-Augustin. Michel Foucault a lu en direct les Pères de l'Église dans les traductions françaises des excellentes collections sources chrétiennes, la bibliothèque augustinienne. Et il a découvert que la situation était beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche et qu'en fait, avant de contraindre et de discipliner la chair,
et les de cacher, auteurs, et de cacher,
oui, et de la cacher par la suite. Ce que les auteurs chrétiens ont fait, c'est de penser la sexualité comme un élément au cœur de l'anthropologie, de leur conception de ce qu'est un être humain.
Donc un grand apport de l'historiographie de ces dernières décennies.
Un apport considérable qui fait sortir, enfin qui fait redécouvrir ces auteurs, c'est vrai d'Augustin, c'est vrai d'autres auteurs comme Jean Chrysostome ou Grégoire de Nazianze, qui les fait sortir d'une lecture tridentine et vaticanesque.
Tridentine, vous faites allusion au Concile de Trente.
Au Concile de Trente, de la réforme catholique du XVIIe siècle. Et du Concile de Vatican I au XIXe siècle, ils n'ont pas inventé, mais ils ont en quelque sorte figé tous ces auteurs comme des références obligatoires, en oubliant ce qu'ils étaient comme acteurs de leur temps et comme contributeurs d'une pensée en formation. Il faut citer, pour parler de ce renouveau historiographique, Henri-René Maroux, qui a été un des premiers historiens français à travailler sur Saint-Augustin avec un regard neuf, un regard d'historien.
D'ailleurs, à réfléchir à l'historiographie en général, il est l'auteur d'un livre important, de la connaissance historique.
Il est aussi auteur d'un livre sur Saint-Augustin et la fin de la culture antique, qui était sa thèse. On pourrait penser à Mandouze aussi, ce grand militant de l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. André Mandouze, qui a beaucoup travaillé sur Augustin.
Maroux aussi, d'ailleurs, plusieurs professeurs de la Sorbonne à l'époque s'étaient beaucoup avancés dans la défense, dans la lutte contre la colonisation
tout
algérienne.
Tout à fait.
Je
pense que ce rapport à Augustin, c'est aussi un rapport africain qui est fort. Peter Brown, qui a énormément contribué aussi à redécouvrir Augustin. Et cette centralité de la sexualité dans l'anthropologie augustinienne que Michel Foucault met en valeur, on la retrouve effectivement bien dans les Confessions d'Augustin, qui sont son œuvre la plus accessible sans doute aux lecteurs modernes. Mais on la retrouve aussi dans son enseignement, mais pas dans la logique d'une condamnation et d'une volonté d'éradication de la sexualité. Ce qui est vraiment intéressant chez Augustin, c'est que pour Augustin, la sexualité devrait être heureuse et harmonieuse. Contrairement à d'autres penseurs chrétiens qui pensent que l'homme ne serait heureux que sans la sexualité, ce qui blesse Augustin, c'est que la sexualité échappe à l'harmonie entre la raison et la chair.
Eh bien voilà une seconde pièce au dossier, un autre extrait des Confessions de Saint-Augustin. Je l'emprunte au Chemin de la philosophie de notre chère Adèle Vendrette sur France Culture le 9 mars 2018.
Pendant nos repas, combien de fois ne nous arrive-t-il pas non seulement de méditer intérieurement, mais même de discuter sur les plus graves sujets? Ne montrons-nous pas un grand empressement à entendre, à parler ou à trouver dans une lecture l'occasion d'apprendre ce que nous ne savons pas ou de nous rappeler ce que nous avons oublié? Mais pour ce qui est de la concupiscence charnelle, si je l'envisage dans ce qu'elle a de légitime, c'est-à-dire la création des enfants, permet-elle, dans l'acte qui lui est propre, de s'occuper, je ne dis pas de la sagesse, mais seulement de toute autre chose? N'a-t-elle pas le triste privilège d'occuper entièrement l'esprit et le corps, et de jeter l'âme elle-même dans une sorte de naufrage? Et quand il lui arrive de triompher des époux, quand ces époux, sans exclure la fin naturelle du mariage, cèdent à la cupidité de la délectation charnelle, l'âme sort de cet état comme on sort du sein des flots et se trouve heureuse de pouvoir reprendre le cours de ses pensées, de respirer à l'aise et de goûter cette volupté du repentir qui tient de si près, a dit quelqu'un, à la volupté de la faute. L'époux le plus sage, pour peu qu'il aime le véritable bien spirituel, ne préférerait-il pas ou engendrer sans la concupiscence, s'il le pouvait, ou du moins sans en ressentir d'aussi violentes secousses?
C'est important, Claire Sotinel, cette distinction entre l'acte de chair destiné à procréer et le plaisir qui serait en quelque sorte gratuit de ce point de vue-là.
Alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce que...
Je l'espérais.
Parce que ce qu'il y a de mauvais dans le plaisir, c'est qu'il submerge la volonté. Pour Augustin, la question se pose pour les penseurs chrétiens. Pour Augustin, dans le paradis terrestre, il y a de la sexualité. Mais il y a une sexualité heureuse parce qu'elle n'est pas en conflit avec l'âme. Alors que pour d'autres auteurs chrétiens, dans le paradis terrestre, il n'y a pas de sexualité. Et l'homme voulu par Dieu est un homme asexué. Tandis que pour Augustin, l'homme voulu par Dieu est sexué. Et ça fait une différence assez importante.
D'ailleurs, on débat de ce qui se passait au paradis terrestre avant la faute.
Bien sûr, exactement.
Y avait-il une sexualité d'Adam avant ?
Eh bien, pour Augustin, il y a une sexualité d'Adam, il y a une sexualité d'Ève, mais il y a une sexualité qui n'est pas en conflit avec l'âme, et donc une sexualité heureuse. Mais en revanche, après la chute, cette sexualité heureuse ne peut plus exister. Donc, il faut contenir cette sexualité, et lui, il fait le choix, non pas en tant qu'évêque ou en tant que prêtre, il fait le choix avant, dès Cassicanum, il fait le choix de renoncer à la sexualité, de façon à pouvoir garder la maîtrise de son âme, parce qu'il... Il pense que dans l'état de péché où est l'homme, il ne peut pas contrôler cette sexualité. En revanche, contrairement là aussi à d'autres penseurs chrétiens, il ne considère pas qu'une vie sans sexualité, qu'une vie qui écarte la sexualité, est absolument meilleure qu'une vie avec sexualité, dans le cadre du mariage légitime, parce que tout de même, il ne prône pas une sexualité débridée.
Donc ça rejoint la grande question du mariage des prêtres, qui est entré dans la pratique beaucoup plus tard, au tournant des deux millénaires. Je me demande si saint Augustin aurait approuvé les propos du cardinal Lallier, qui était l'archevêque de Marseille, et qui, au moment de Vatican II, s'exprimait de la sorte sur la radio publique. On était le 19 novembre 1962. Écoutons-le et vous me direz après. Vous me direz après si ce que vous pensez de ce propos et de son caractère historiquement très daté.
Les gens ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous le savez ?
Ah, je crois que je le sais. Au début de l'Église, vous savez que les prêtres étaient mariés. C'est assez significatif que, petit à petit, en prenant conscience des exigences de leur sacerdoce, ils ont eux-mêmes, d'une certaine façon, désirer ne pas se marier. Tout simplement parce que le prêtre est un autre Christ. Et que le Christ a été tout entier donné à son Père et aux hommes. Nous imaginerions mal, je pense, que le Christ ait eu besoin pour accomplir son destin d'un autre amour que de l'amour de Dieu. Eh bien, ce n'est pas pour avoir plus de temps et pour être plus libre que nous ne sommes pas mariés. C'est parce que la pensée du Christ et son amour et le désir de lui ressembler parfaitement font que tout notre cœur est véritablement dans notre tâche, dans notre service de l'Église et dans notre service des hommes.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Est-ce que je m'avance, Claire Sautinel, en disant qu'on peut penser que saint Augustin n'aurait pas été absolument sur la même longueur d'onde ?
Il n'aurait sûrement pas pensé les choses en ces termes. Effectivement, à son époque encore, et on n'est pas tout à fait au début de l'Église au 5e siècle, hein, ça dure quand même depuis un peu longtemps, il n'y a pas d'empêchement à ce que les prêtres soient mariés. Des hommes mariés sont consacrés, et ils peuvent rester mariés, même s'il faut bien reconnaître qu'il y a un idéal un peu monastique de prêtres ou d'évêques qui se consacrent entièrement à sa mission. Mais surtout, le prêtre ou l'évêque ne sont pas... ils sont des représentants du Christ sur terre, des délégués, des ministres, mais pas des Christ eux-mêmes.
Comme a l'air de le dire Monseigneur Lallier.
Monseigneur Lallier. Et c'est pas vraiment par mystique que le mariage des prêtres est tout à fait impossible. C'est effectivement très décalé. Enfin, c'est une réalité qui s'est imposée très lentement dans l'Église, qui ne s'est pas imposé spontanément. Ce ne sont pas tous les prêtres qui ont dit « Oh, quelle bonne idée, je vais rester célibataire ». Ça s'est imposé tardivement, mais on a régulièrement des campagnes contre le mariage des prêtres. Par exemple, Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, fait un gros effort pour encourager les prêtres à ne pas être mariés. Mais il y a une résistance extrêmement forte. Et puis, quand les prêtres ne sont pas mariés, et Augustin lui-même rencontre le problème dans l'exercice de son ministère, eh bien, quand les prêtres ne sont pas mariés, il faut surveiller de très près leurs relations avec les religieuses qu'ils peuvent fréquenter, avec les femmes qui peuvent fréquenter leur maison. Quand les prêtres ne sont pas mariés, il y a une discipline de la sexualité des prêtres ou des moines ou des évêques qui occupe une place croissante dans les préoccupations des autorités ecclésiastiques de l'époque.
On trouve ça très présent, par exemple, dans la correspondance, l'énorme correspondance Saint-Augustin, ou dans le relevé de ses sermons.
Alors, on trouve ça pas tellement dans les sermons, parce que les sermons s'adressent au peuple et pas au clerc. Hein. Dans les sermons, on trouve des choses sur la continence, sur le fait qu'il faut être fidèle à son épouse ou à son époux. Ce qui concerne la discipline des prêtres, on le trouve plus dans les canons des conciles, hein. C'est-à-dire dans les règles des conciles africains auxquels Augustin a participé. Parfois, dans ses correspondances, je lisais hier une lettre d'Augustin dans laquelle il rappelle qu'il a chassé du monastère un jeune moine parce qu'on l'avait retrouvé en conversation avec les nonnes à des heures inappropriées. Et la punition a été simple, il a été exclu du monastère.
La conversation, c'était une litote ?
C'était sans doute une litote, c'était en tout cas une conversation, c'est un tête-à-tête à une heure inappropriée. Et ça, il faut le surveiller à partir du moment où il y a des exigences de continence absolue. Là, il s'agit de moines et pas de clercs. Mais quand la règle devient la continence pour les clercs, la surveillance s'impose. Et les autorités de l'Église ont besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Augustin lui-même a été continent, pour autant qu'on le sache, pendant toute sa vie. Après sa conversion, il en a pris la résolution et il l'a assumé. Mais il n'a jamais éliminé de son œuvre et de sa correspondance l'immense affection qu'il pouvait avoir pour certains de ses amis, le plaisir de les voir, la peine d'en être séparé.
Les amis E, vous voulez dire ?
Les amis IS, hein, comme Alipius qui était mentionné dans le premier extrait. L'enthousiasme amical d'Augustin va plus vers des amis IS, hein, entre autres parce qu'il partage des intérêts intellectuels. Mais là aussi, de même qu'il a vécu véritablement dans la chair avec sa concubine du temps où il était marié, la réalité tangible de l'amitié compte beaucoup sur lui.
Il ne donne même pas le nom de son amante.
Il ne donne jamais nulle part le nom de son amante, dont l'identité reste inconnue des historiens.
Je vois qu'une romancière, Claude Pujade-Renaud, récemment, en 2013, a écrit un livre en imaginant, en restituant la figure de
la mère d'Adéoda, car
de la concubine qui n'est connue que comme la femme d'Augustin et la mère d'Adéoda.
C'est la mère d'Adéoda, c'est la façon dont Augustin l'appelle toujours, la mère de mon fils.
Hein. Jamais donner son nom.
Sans jamais donner son nom. Sans jamais donner son nom.
C'est quelque chose comme l'esquisse du début de l'ombre d'une misogynie, non ?
C'est une misogynie si par là on entend le fait qu'elle est reléguée à l'extérieur de ce qu'est l'histoire même d'Augustin. Mais c'est aussi un biais social très fort, hein, qui est au moins aussi puissant que la misogynie. Si Augustin avait été marié, le nom de son épouse aurait été mentionné.
Une des questions qui est proche est celle du moment où l'enfant peut rencontrer la tentation du vice. Est-ce que l'enfant est pur ? C'est une question que se posait saint Augustin et qui est évoqué dans ce dernier extrait des Confessions, qui était lu sur France Culture le 18 juillet 1973.
Nul n'est pur de péché en votre présence, non pas même le petit enfant dont la vie n'est que d'un jour sur la terre. En quoi donc ai-je péché alors ? Était-ce un péché de convoiter le saint en pleurant ? Si je convoitais maintenant avec une pareille ardeur, non pas le saint nourricier, mais l'aliment convenable à mon âge, on me raillerait et me reprendrait à bon droit. Ce que je faisais était donc répréhensible. Oui, c'était une avidité mauvaise. Car en grandissant, nous l'arrachons et la rejetons. Ainsi, la faiblesse du corps est innocente chez l'enfant, mais non pas son âme. J'ai vu et observé un petit enfant jaloux. Il ne parlait pas encore et il regardait, tout pâle et l'œil mauvais, son frère de lait. Qui ignore le fait? Est-ce là l'innocence enfantine? Non, Seigneur, il n'y a pas d'innocence enfantine. Où donc, je vous prie, mon Dieu? Où, Seigneur, moi, votre serviteur? Où et quand ai-je été innocent?
Belle question, Claire Sautinel.
Il n'y a pas d'innocence enfantine. Et pour Augustin, c'est une question aussi théologique. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on a beaucoup parlé des confessions dont ce texte est extrait, Augustin, qui a une puissance intellectuelle extraordinaire, veut outiller le christianisme d'une pensée solide pour faire face aux contestations des non-chrétiens ou des manichéens ou des donatistes, puisque la vie du christianisme n'est pas de tout repos au 5e siècle ou 4e siècle plus qu'aujourd'hui.
Efflorescence d'hérésie.
Efflorescence d'hérésie, constante discussion sur les aspects de la foi. Dans cette idée que nul n'est pur à la naissance, on voit dès l'époque de la rédaction des confessions entre 397 et 400, cette idée très forte chez Augustin du péché originel qu'il développe dans un de ses grands débats théologiques avec les Pélagiens. Pélagiens qui affirmaient que la vertu pouvait garantir le salut.
C'est en somme l'immense question qui va irriguer l'ensemble de la vie de la chrétienté jusqu'aujourd'hui quasiment, c'est-à-dire la prédominance de la grâce ou la prédominance des œuvres. Est-ce qu'on peut gagner son salut par son action ou est-ce que tout dépend finalement de la divinité?
C'est un des aspects du grand débat avec Pélage qui a effectivement irrigué la vie de la chrétienté au moins jusqu'au 19e siècle, parce que c'est un peu plus difficile de l'avoir en œuvre aujourd'hui. Mais ça a été au cœur du jansénisme, mais bien avant ça, de la réforme elle-même.
Alors, quelle est la position de saint Augustin à cet égard? Elle a parfois été caricaturée.
Elle est difficile à résumer très brièvement, mais la position d'Augustin, c'est que l'homme, des suites du péché originel, est incapable de se sauver lui-même. Et que l'homme ne peut être sauvé que avec l'aide de la grâce de Dieu. Et que toute prétention à se sauver soi-même est en soi une faute qui conduit à la perdition. Donc la position d'Augustin est assez radicale en la matière.
Mais je ne comprends pas, parce que si la faute conduit à la perdition, ça veut dire que le fait qu'on se soit comporté d'une façon spécifique aboutit à ce qu'on ne puisse pas profiter de la grâce.
Alors, conduite à la perdition, sauf s'il y a intervention de la grâce de Dieu qui ne dépend pas du contrôle ni de l'individu qui aspire au salut, ni du prêtre ou de l'évêque qui enseigne le salut, et que donc tout enseignement et tout progrès religieux est bénéfique, parce qu'Augustin croit aussi que le christianisme est bon pour la société, il pense aussi que les vertus prêchées par le christianisme permettent une société moins brutale, une société plus juste.
Mais si on ne peut pas conquérir son salut, est-ce que ça ne désarme pas la positivité de l'action, le bien ou...
C'est tout le débat entre les Pélagiens et les Augustiniens et les partisans de la pensée d'Augustin, qui est très seul sur ce combat-là de son vivant et même encore après sa mort.
On va retrouver ça au moment des guerres de religion, au moment du jansénisme.
Bien sûr, bien sûr. Mais Augustin a une certaine lucidité en la matière. Il considère que son rôle n'est pas de dire ce qui sera le plus facile et le plus efficace en termes de pastoral, mais de dire ce qui est le plus vrai. Et pour lui, ça, petit côté un peu pari de Pascal aussi, de toute façon. C'est, je ne suis pas sûr de faire mon salut, mais je ne perds rien à essayer de le faire. Et il y a des tas d'ambiguïtés et d'éléments difficiles dans la pensée d'Augustin sur cette question-là, y compris l'idée qu'un enfant mort sans baptême, Augustin va jusqu'à dire qu'un enfant mort sans baptême va forcément en enfer, puisque seul le baptême est la marque du salut. C'est les positions extrêmes de la fin de sa vie dans l'élan de la controverse. Mais même si on lisse un peu la pensée d'Augustin, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un pessimisme radical, hein, qui est de penser que en chaque homme, il y a les germes du mal, hein, que lui, il explique par le péché originel, hein, mais un optimisme, hein, qui est de dire que, le sachant, il faut essayer de construire sur terre la cité de Dieu, même si on sait qu'elle ne sera jamais aboutie dans l'espace et le temps dans lequel nous vivons.
La cité de Dieu, c'est le titre de son dernier grand ouvrage, qui implique, vous nous l'expliquez dans un article important que vous avez donné au numéro de la revue L'Histoire, qui est consacré précisément à saint Augustin. La cité de Dieu a entraîné des malentendus, en particulier quant à la grande question des relations entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, de siècle en siècle.
De siècle en siècle et dès l'époque d'Augustin.
Alors quel est le malentendu ?
Le malentendu, c'est de croire, hein, que le christianisme a pour vocation de former une société correspondant aux valeurs chrétiennes, hein, qui exclurait les hérétiques, les païens, tous ceux qui sont dans la faute, et qu'elle doit imposer donc des normes très strictes, hein, qui procèdent par élimination, et élimination non pas d'un corps restreint qui serait l'Église au sein d'une société, comme dans l'horizon pluraliste, hein, du IVe siècle, mais d'une Église qui se confondrait avec toute la société, comme aspire à le faire l'empereur Théodose à l'extrême fin du IVe siècle.
Ce qui affaiblit le pouvoir temporel par rapport au pouvoir spirituel ?
Ce qui confond le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.
Hein. C'est au profit du pouvoir spirituel ou...
Oui, parce que quand ce sont des clercs qui parlent, le pouvoir spirituel a vocation à être supérieur. Mais quand c'est l'empereur qui parle, Théodos, ses fils Arcadius et Honorius, l'empereur, parce qu'il applique la volonté de Dieu par l'Église, est encore plus puissant.
Donc, le pape et l'empereur sont tout, dit Victor Hugo.
Le pape et l'empereur sont tout, et dans l'univers d'Augustin, le pape, ça n'existe pas encore vraiment, c'est l'évêque de Rome. Donc c'est l'Église tout entière et l'empereur sont tout. Et c'est un petit peu ce qu'essayent d'accomplir les fils de Théodose lui-même et ses fils, au tournant du 4e et du 5e siècle.
Théodose, c'est l'empereur qui affirme qu'il est chrétien et qui installe le christianisme comme religion dominante, je ne me trompe pas ?
Oui, tout à fait. C'est l'empereur qui publie un édit disant que seule la foi de Pierre, telle qu'elle est énoncée par l'évêque de Rome, définit la religion autorisée dans l'Empire. Donc c'est vraiment l'affirmation la plus forte. C'est un édit que personne ne lit, mais à l'époque, qui est publié à Thessalonique pour un auditoire très restreint, mais qui est devenu la marque de ce que voulait faire effectivement Théodose, c'est-à-dire véritablement un empire complètement chrétien. Mais il y a quelque chose qui montre que ça marche pas, c'est le sac de Rome de 410 et l'effondrement de la ville de Rome et tous les doutes qui s'ouvrent à ce moment-là, car cet empire chrétien s'accompagne d'une catastrophe majeure, hein, qui est la prise de Rome.
Et son sac ?
Et son sac, hein, la prise de Rome, sa dévastation pendant 3 jours par les Goths, qui bien poliment saccagent pendant 3 jours, puis s'en vont. Mais il n'empêche que le choc est massif et ouvre toute une série de débats qui mettent en cause de façon radicale cette christianisation impériale qui a eu lieu sous Théodose. Et en réponse à cela, Augustin écrit la Cité de Dieu, qui n'est plus de dire l'Empire peut être chrétien, qui est de dire sur Terre, la société est mélangée. Elle est mélangée de bien et de mal, elle est mélangée de vrais croyants et de faux croyants, de chrétiens et de païens. Et la Cité de Dieu, c'est ce qui se passera dans le ciel plus tard.
Et ce n'est donc pas l'opposition entre le pouvoir romain, par exemple, et les autres pouvoirs, comme évidemment, du côté du Vatican, on a tendu à le dire ultérieurement. C'est ça que vous appelez le grand malentendu, Claire Sautinel.
Parce que le malentendu, c'est que la Cité de Dieu d'Augustin redonne son autonomie au pouvoir politique, libère le pouvoir politique de cette illusion de confusion entre l'Église et le pouvoir impérial.
Au lieu de le soumettre. C'est le moment où Napoléon se saisit de sa couronne impériale des mains du pape Pie VII pour s'en couvrir lui-même. Je voudrais que nous terminions cette conversation en évoquant la question que l'on peut appeler pénale. Autrement dit, comment fonctionnait la justice ecclésiale À l'époque, cette question est évidemment inspirée pour moi par notre actualité, c'est-à-dire ce que nous lisons de la différence entre les tribunaux, qui sont les tribunaux ecclésiastiques, et les tribunaux civils, opposition qui est patente dans certaines affaires récentes que je n'ai pas besoin de préciser. Pour illustrer cela, cette dernière archive, un reportage de Julie Pietris sur le fonctionnement de la juridiction ecclésiastique, c'est une archive de France Inter, le 18 septembre 2017.
L'Église a ses tribunaux et elle jugeait jusqu'à récemment le père Prena, ce prêtre lyonnais soupçonné d'agression sexuelle sur près de 70 enfants. Mais ce procès a été suspendu discrètement au cœur de l'été et depuis les langues se délient sur une procédure plus qu'opaque.
Pour comprendre, il faut chasser de nos têtes l'image du tribunal. Avec juge, joute verbale d'avocat et témoins tous réunis, là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les victimes sont entendues discrètement, seules, dans plusieurs villes de France, après avoir juré sur la Bible. Et dans le cas du procès du père Prena, plusieurs victimes ont été choquées par la manière dont se sont passés les entretiens. Jean-Yves Saillet a été entendu en juillet à l'évêché de Lille.
Ça a commencé tout de suite, je dirais l'étonnement, quand on nous a présenté le greffier. Donc un monsieur, un vieux monsieur, tout à fait sympathique. Donc il était prêtre. Il n'avait ni stylo ni papier. Il n'entendait pas tout ce qu'on disait. Mais ça s'est confirmé surtout après. C'est-à-dire que c'était clairement quelqu'un de sourd. Il fallait que je répète, finalement ce qui m'était arrivé. J'ai fait un camp de scout en Allemagne. J'avais à peu près 8 ans. Il m'est arrivé à plusieurs fois d'être convoqué par le père Prena dans son bureau. Moi, il me prenait sur ses genoux et puis il commençait à me caresser le dos, le ventre. Puis ça descendait sous le short. Et surtout, il y a eu un camp d'un jour. On est parti en bivouac de nuit et il m'a fait dormir sous sa tente pendant ce bivouac. Quand je racontais ce qui s'était passé en Allemagne, l'officiel s'est rendu compte que le greffier ne notait pas. Et il lui a dit « Mais notez, c'est important !» Le greffier relève la tête, regarde l'officiel, me regarde, et le seul bruit, c'était « C'était pas possible d'avoir un compte-rendu fidèle. On a demandé, nous, à avoir les notes, et ils n'ont pas voulu nous les donner.
Qu'est-ce que l'on sait, Claire Sotinel, des tribunaux au temps de notre Augustin ?
Alors, au temps de notre Augustin, l'Église, dans la lignée de cette fusion entre les pouvoirs temporels et spirituels, pour le dire rapidement, l'Église a acquis un pouvoir judiciaire. Un pouvoir judiciaire en partie pour alléger les tribunaux impériaux pour des questions qui n'ont rien de spécifiquement ecclésiastique. On peut par exemple procéder à des affranchissements d'esclaves dans les Églises. Et ça fait gagner du temps à tout le monde.
Augustin, vous le disiez, comme évêque, a un rôle judiciaire.
Augustin a un rôle judiciaire, ce qu'on appelle l'audience épiscopale. Il faut que les deux parties soient d'accord, c'est sur le modèle des tribunaux rabbiniques, il faut que les deux parties soient d'accord pour s'adresser à l'audience épiscopale. Et tous les procès qui ne requièrent pas la peine capitale peuvent progressivement, au cours du IVe siècle, être jugés par l'évêque. Une sorte de médiation. La question peut-être plus intéressante en relation avec ce qui est dit, c'est que l'Église doit aussi s'occuper de la discipline de ses propres clercs, diacres, etc. Et là, c'est là que se développe cette idée d'internalité. À l'époque d'Augustin, le problème, c'est que ce qui est condamné par l'Église n'est pas condamné par la loi. Condamner des diacres à un moine qui va flirter avec les nonnes n'est absolument pas une faute selon le droit impérial. Donc on est dans le registre d'une discipline ecclésiastique. Et cette discipline ecclésiastique, elle se traduit par des peines propres qui sont différentes des peines impériales lorsque la faute est relève des tribunaux.
Mais les pouvoirs ecclésiastiques ont le droit de punir lui-même ?
Alors, la punition en question, c'est être relégué dans un monastère, ce qui suppose qu'on accepte d'y rester, ou être excommunié, ce qui fait sortir de l'Église et renvoie aux tribunaux de l'Église. Ce qui se passe dès le 5e et le 6e siècle, c'est que l'Église revendique le droit de juger de fautes qui relèvent des tribunaux impériaux. Par exemple, que l'Église revendique le droit de juger de crimes. Alors, on parlera pas, il y a très peu de crimes sexuels dans la Rome antique, c'est une catégorie qui est très peu développée. Il y en a une qui existe, c'est le rapt des jeunes filles, qui vaut assez bien au viol, mais pas seulement.
Ça remonte à l'enlèvement des Sabines.
Ça remonte sans doute à l'enlèvement des Sabines. Et là, l'Église exige d'être seul juge Et donc, c'est une façon de soustraire les clercs aux tribunaux impériaux. Et à l'époque d'Augustin, les tribunaux impériaux résistent, même dans cet empire très chrétien, les tribunaux impériaux exigent de pouvoir intervenir lorsqu'il s'agit de prêtres.
Donc, eh bien, nous voilà dans notre actualité.
Complètement dans notre actualité. C'est pas inhérent au christianisme d'avoir une justice complètement séparée. Et la logique de la cité de Dieu, d'Augustin, c'est justement de donner à l'espace politique et à l'espace séculier son autonomie, que ce soit dans le domaine des décisions politiques ou dans le domaine de la justice.
Alors, au terme de cette conversation consacrée à la force intacte de saint Augustin, Claire Sotinel, vous insisteriez sur l'actualité de ses propos ou au contraire sur leur désuétude par rapport à notre contemporain?
Je pense que les propos d'Augustin sur les relations entre le pouvoir et la religion sont d'une extraordinaire actualité, particulièrement pour une église catholique qui se rétracte par rapport à l'univers social et politique qui est moins importante, qui est plus marginale, et qui doit savoir retrouver de nouvelles articulations avec la société dans laquelle, les sociétés dans lesquelles elle est établie.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous nous annoncez pour paraître en septembre 2019, Claire Sotinel, un livre essentiel dans la collection que dirige Joël Cornette chez Belin, Rome, la fin d'un empire, de 212 à 527. C'est un opus magnum.
C'est un opus pesant, en tout cas. Mais oui, une antiquité tardive un peu large, hein, qui commence avec la crise du IIIe siècle et va jusqu'au royaume gothique, et qui recouvre évidemment la période où Augustin, de la vie et de l'œuvre d'Augustin.
Alors, plusieurs ouvrages essentiels, outre celui de Michel Foucault, que nous avons cité chemin faisant, Les aveux de la chair chez Gallimard, en 2018, un livre évidemment posthume, la biographie importante dont nous avons également parlé, La vie de saint Augustin, de Peter Brown, au Seuil, qui a été réédité récemment dans la collection de Poche Point. Stéphane Ratti a écrit un ouvrage que je crois, à vos yeux, important, Le premier saint Augustin, paru aux Belles Lettres en 2016, et puis plus ancienne, la biographie de Serge Lancel, Saint-Augustin, Fayard, 1999. Vous pourrez trouver, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, fatigue, pas la nôtre. Nous parlerons du surmenage, du stress et du burn-out. Pour une fois, un mot anglais, vous verrez pourquoi. Mon invité sera Georges Vigarello. Et lundi matin, vous retrouverez à 9h la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine à une histoire des Outre-mer. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Philippe Mercher, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez rejoindre Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.